Paris, le 18 novembre 1891. Prière de porter à l'attention du docteur Marie la présente.
Cher docteur, je me nomme Marie Daranguier de Quincereau, religieuse et dame du Sacré-Cœur. Je suis l'une des filles d'Hippolyte Daranguier de Quincereau, ingénieur en chef du canal de Berry, décédé en 1875. Suivant de près les nouvelles dans la région du canal, j'eus connaissance par pur hasard du projet de colonie à Dun-sur-Auron dont vous aurez bientôt la charge. Cette initiative de traiter plus humainement les errements des patients aliénés m'a beaucoup émue et j'aimerais porter à votre attention un cas particulier pour lequel j'ai une profonde affection, car je lui dois la vie. Il s'agit d'un vieux monsieur qui travailla plusieurs fois pour mon père à résoudre des enquêtes dans le Berry et dans plusieurs provinces de France. Il se nomme Auguste Nabel. C'est quelqu'un de très doux, calme, assez mutique, mais sans agressivité aucune. Il fut interné de force en 1872 dans un asile pour des raisons politiques à la suite des événements de la Commune de Paris et y est maintenu depuis sans aucune raison valable que la rancune des pouvoirs publics. Je lui rends visite plusieurs fois dans l'année et suis horrifiée par les traitements inhumains que l'on réserve à ces pauvres gens. Père et moi-même avons lutté durant des années pour le faire libérer, sans succès. Cela fera bientôt 20 ans qu'il aura eu à les subir, et j'aimerais contribuer à lui offrir une fin de vie plus douce et agréable pour tenter d'apaiser cette injustice. C'est pourquoi je vous contacte.
Afin de vous demander l'autorisation de le confier à vos soins bienveillants. Oui, entrez.
Votre rendez-vous de 10h est arrivé.
Très bien. Faites-le entrer, je vous prie.
Vous pouvez entrer, monsieur Nabel. Le docteur Marie vous attend.
Nabel entre, comme à son habitude, en me faisant un signe de tête discret mais sans me regarder. C'est notre 5e rendez-vous depuis son arrivée dans la colonie. Il semble avoir repris un peu de poids, à meilleure allure. Comment vous portez-vous, cher Auguste ? Un autre signe de tête en guise de réponse. Nabel dépose sa canne, s'assoit dans le fauteuil délicatement. Son dos le fait souffrir. Son épaule gauche tressaute et sa main droite se crispe. Il ferme les yeux et inspire profondément. Je sais que je n'aurai pas de réponse à ma question. Vous semblez bien traité chez Annie, votre nourrice. Vous le savez, je suis en contact régulier avec votre famille d'accueil. Ils me font part de vos progrès. Ils disent que vous semblez retrouver une nouvelle jeunesse. Aucune réaction de Nabel. C'est l'un des deux seuls hommes que nous accueillons. Cette colonie est réservée aux femmes, mais il y a quelques exceptions que j'ai acceptées. Auguste Nabel en fait partie. Mais depuis son arrivée à Dun, il n'a pas prononcé un mot. Je relisais à l'instant la lettre que m'a envoyée voici bientôt un an, votre bienfaitrice, Dame Marie, comme elle se fait appeler. C'est elle qui m'a demandé de vous accueillir dans la colonie, vous le saviez ? Un signe de tête. Bien sûr qu'il le sait. Il regarde discrètement par-dessus son épaule droite, en direction de la porte. Cet homme est toujours sur ses gardes, toujours à l'affût. Je suis curieux de savoir ce qui se cache dans cette tête. Alors elle m'explique dans cette lettre que vous avez été interné de force dans un asile parisien pour de mauvaises raisons. Pouvez-vous m'en dire plus ? Je le sens se raidir d'un seul coup. Pour la première fois, il me regarde droit dans les yeux. J'y entrevois de la colère et de la panique mélangées. J'ai une piste, je tente le tout pour le tout. « Des raisons politiques » affirme-t-elle. Un petit grognement de mépris. C'est bien le premier son que j'entends de sa part. Tenace celui-là, mais je suis encore plus. Et nous avons tout notre temps. Vous savez que vous pouvez me parler, je suis votre conseil. Et tout rapport entre psychiatre et patient est strictement confidentiel. Nabel ouvre la bouche, je suis suspendu à ses lèvres.
Il a des oreilles partout.
Il se retourne brusquement, regarde à travers la fenêtre. Oh mon cher, aucune oreille ici à Dun-sur-Auron. Imaginez que les courriers mettent plusieurs semaines à arriver parfois. À tel point que je privilégie maintenant le télégraphe.
Ah, le télégraphe, il le surveille aussi, que pensez-vous ?
Qui ça ? Qui le surveille ?
Le ministre, le roi. Le président, qui sait ce qu'il occupe comme fonction maintenant ?
Nabel est agité, regarde nerveusement par la fenêtre en direction du square où s'assoient souvent les résidentes. Un homme politique ? Sadi Carnot ? Léon Bourgeois ? Qui vous surveille ? Nabel hésite, jette à nouveau un œil en direction de la porte, puis reprend sa surveillance de la fenêtre. Il me fait signe d'approcher sans la quitter des yeux. Je me dirige lentement vers lui.
« Ce bon vieux Thiers, Adolphe Thiers. »«
Thiers. Thiers ? Mais mon cher Auguste, Adolphe Thiers est mort voici 5 ans au moins. » Nabel me regarde, interloqué.
« Il est mort ?»
Ce n'est pas une question. Il ne fait que répéter l'information pour mieux l'accueillir. Il semble presque triste, mélancolique. Je ne le questionne pas plus. Le contact est établi et je crois qu'il m'en dira plus de lui-même. D'ailleurs, il ne me quitte plus des yeux, a perdu tout intérêt pour la fenêtre. Je soutiens son regard. Une étincelle de colère s'anime dans ses yeux.
« Ainsi, il n'aura pas été jugé pour ses crimes. Il les a fait massacrer, vous savez. » Un massacre. Il a voulu que je les dénonce, que je les lui livre, mais jamais, jamais, vous m'entendez? On ne tire pas sur un peuple qui réclame sa liberté. Je le lui ai dit, et il m'a fait enfermer pour me faire parler, ou pour me faire taire, je ne sais pas. L'asile, c'est comme la prison, le procès en moins, et il m'a oublié. Mais je n'étais pas fou, non. Je le suis peut-être devenu après leur traitement. Les bains d'eau gelée et les camisoles. Mais je n'étais pas fou, vous comprenez?
Adolphe Thiers avait effectivement mis fin à l'insurrection de la Commune de Paris lors de la Semaine sanglante en mai 1871. Je ne m'en souviens pas, j'avais à peine 6 ou 7 ans à l'époque. En tant que psychiatre, je sais aussi que la loi de 1838, promulguée par Adolphe Thiers, permet d'interner toutes sortes de pauvres gens qui n'ont pas grand intérêt à aller dans ces instituts. Les épileptiques, les alcooliques, des patients désignés comme idiots ou en surmenage intellectuel, tous sont mélangés et relégués au rang d'aliénés. Thiers avait fait de sa loi une loi répressive en les enfermant tous en asile, sans distinction. Avait-il fait de même avec les opposants politiques ? Nabel était-il réellement victime de la colère de Thiers ? Ou était-il victime de délires de persécution, persuadé d'être la victime d'un complot ? Vous savez, cher Auguste, j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de fous. Il n'y a que des patients en attente d'un traitement adapté. We'll be right back.